beaucoup. Juste avant de vous laisser la parole, de vous laisser poser des questions, je voudrais me tourner vers Monsieur Lanceau.
Voilà,
il est là. Et je voudrais vous demander un petit peu votre avis sur les différentes présentations que vous avez vues, entendues, et voilà, nous donner votre avis d'économiste.
Je vais essayer d'être bref pour laisser les questions et le temps de la discussion. Parce que ce que je voudrais dire, bon, quand j'ai dit tout à l'heure que ça dépendait du prix que l'on mettrait pour qu'on soit autosuffisant, c'est que si on regarde l'histoire quand même des 30-40 dernières années des politiques risicoles, et je vois tout à fait ce qu'a dit notre collègue de l'UR, tout a été dit et redit sur le risque. Si vous prenez par exemple les stratégies risicoles qui ont été formulées dans les années 70-80, vous avez à peu près déjà un ensemble de mesures qui sont déjà et qu'on retrouve régulièrement de manière récurrente. Donc il faut se poser la question, enfin moi je me pose la question de savoir pourquoi systématiquement vous avez des vagues comme ça d'investissement, d'engouement, je dirais, de mise en priorité de la riziculture, et puis progressivement on constate que sur le long terme, de toute façon, la dépendance de l'Afrique de l'Ouest, pardon, que de l'Afrique de l'Ouest pour simplifier, hein, encore c'est déjà chaque pays qui a un cas un peu différent, mais c'est à peu près 50%. Hein, vous prenez depuis les années 85 jusqu'à maintenant, bon an, mal an, vous êtes un peu 45% d'autosuffisance, 55%, etc. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la consommation, elle augmente sur deux facteurs. La population, 3% par an, et 3% lié au changement alimentaire. C'est-à-dire que la consommation de riz par habitant a évolué et continue à évoluer de manière très très rapide. Et ça, c'est un enjeu majeur, parce que si on ne prend pas en compte le fait qu'on a cette consommation-là, on ne comprend pas pourquoi le déficit persiste. Si vous prenez la croissance de la production d'Afrique de l'Ouest, elle est remarquable. Elle est plus rapide que dans beaucoup d'autres régions du monde. Elle est à peu près équivalente à la croissance démographique. Ce qui veut dire que si les gens ne changeaient pas d'alimentation, continuaient à garder une alimentation plus diversifiée, on aurait effectivement pratiquement une autosuffisance. Donc c'est une autre façon de voir aussi l'équation. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas dans un processus de substitution des importations à une production locale. Ce n'est pas vrai. On est dans un marché qui est en pleine expansion, en plein boom, et donc qui, pour moi, constitue une grande opportunité en termes de développement, et de développement à la fois du monde rural, mais aussi de toutes les activités qui sont de transformation, de commercialisation. Donc je pense que c'est comme ça, moi, que je placerai l'enjeu. Il me semble que placer l'enjeu, je le dis tel que je le pense, sur la question de l'autosuffisance, c'est quelque chose qui mène à une impasse en termes de politique économique. Parce qu'on va pouvoir effectivement l'atteindre, investir, surinvestir, mais on risque aussi de le faire au détriment d'autres cultures. C'est là où je disais tout à l'heure, on peut être autosuffisant, mais dépend de qui. Effectivement, on peut mettre beaucoup d'investissements sur le riz, avec des projets qui marcheront plus ou moins bien, mais qui auront sans doute des effets. Mais pourquoi est-ce que seulement le riz serait important en Afrique de l'Ouest? Il y a d'autres cultures, d'autres aliments. Hein, on peut parler des céréales sèches, on peut parler de l'igname, on peut parler du manioc qui gagne de plus en plus, qu'on trouve de plus en plus dans les pays sahéliens. Donc je pense qu'il faut faire attention de ne pas avoir... Je comprends très bien la priorité que l'on donne au riz, puisque c'est effectivement l'importation, disons, en céréales majeures. Mais ça fait 20% des importations alimentaires, ça fait 5% des importations totales. Donc 5% de la balance totale. C'est-à-dire le coût des importations de riz en Afrique de l'Ouest en moyenne, alors on va un peu varier entre les pays, hein, les pays pour lesquels c'est plus important, d'autres pour lesquels c'est moins important. Si on prend le Sénégal, bien sûr ça va être plus important, mais si on prend d'autres pays, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas aussi, disons, macroéconomiquement aussi important que ça. Alors, dernière chose que je voulais dire, on pourra revenir après préciser ce que je veux dire par là, mais pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas les bonnes politiques? Parce que les conclusions de nos trois orateurs que je partage, pourquoi il n'y a pas les bonnes politiques? Actuellement, si on regarde par exemple le prix du riz de détail en Indonésie et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, et pendant la Révolution verte et depuis longtemps, ont toujours été supérieurs au prix sur le marché mondial. C'est-à-dire que systématiquement, en Indonésie, dans d'autres pays, en Inde par exemple, on a adopté une politique sur laquelle on a décidé qu'on taxait le consommateur pour favoriser les investissements dans la culture. Ça a été un choix qui a été construit sur ce qu'on pourrait dire un consensus et qui n'est pas lié seulement à des enjeux démocratiques ou autres, parce que l'histoire récente de l'Indonésie est très différente de ce qu'elle était quand la Révolution verte a été mise en place. Donc il y a eu aussi effectivement des enjeux géopolitiques, une menace liée, disons, à ce qu'on appelait Révolution verte contre Révolution rouge, hein, il faut bien se rendre compte du contexte à l'époque, qui ont fait que les pouvoirs publics n'avaient pas le choix. Or, actuellement, en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il n'y a pas un consensus au niveau des sociétés ouest-africaines pour taxer les consommateurs, y compris les consommateurs ruraux, parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que très souvent on dit le riz c'est les villes et l'autoconsommation c'est les campagnes. C'est pas vrai. Si vous prenez les derniers travaux qui ont été faits par les collègues du CIRAD sur les enquêtes budget consommation, on s'aperçoit qu'à peu près sur le marché alimentaire, donc ce que les gens dépensent pour acheter des aliments en Afrique, 50% c'est le monde rural. Donc c'est pas simplement les villes qui achètent du riz. On trouve aussi du riz importé, comme je l'ai vu au Nigeria dans notre pays, on le trouve dans les marchés ruraux, on trouve du riz importé dans les campagnes. Donc je pense que c'est simplement le fait qu'il y a effectivement un enjeu politique, mais c'est pas uniquement le lobbying, c'est le lobbying joue, hein, je veux dire, je suis pas naïf, je sais très bien qu'il y a des enjeux importants financiers, mais il y a aussi le fait que finalement, quand vous avez un prix sur le marché mondial qui est autour de 400 dollars à tonne maintenant, eh bien vous préférez effectivement, comme vous l'avez dit, assurer la stabilité dans les villes et dans les campagnes en laissant, disons, le riz importé rentrer parce qu'il donne une certaine stabilité. Madame Ifo-Fifa nous a expliqué que lorsqu'il y a eu une mauvaise récolte à cause des inondations, si j'ai bien compris, l'année dernière, Madagascar a importé du riz pour pouvoir pallier à ces variations. Donc je pense qu'il faut se méfier, disons, d'avoir un tropisme trop fort sur ces questions de tout le riz et tout l'autosuffisance alimentaire. Ceci dit, je suis persuadé que le riz est un levier magnifique de transformation et d'amélioration des revenus et de développement rural en Afrique. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Je vais rebondir sur...